Le prince venait de partir. Il serait libre. Mais elle se trouvait pour le moment gênée. Tu l'as vu toi-même l'autre jour, quand j'utilisais mes vieilles doublures. Plus d'équipage à présent, et ce n'était pas tout. Le tapissier menaçait de reprendre les meubles de la chambre et du grand salon. Elle ne savait que faire. Frédéric eut envie de répondre « Ne t'inquiète pas, je paierai. » Mais la dame pouvait mentir. L'expérience l'avait instruit. Il se borna simplement à des consolations. Les craintes de Rosanette n'étaient pas vaines. Il fallut rendre les meubles et quitter le bel appartement de la rue de Rouault. Elle en prit un autre, sur le boulevard Poissonnière, au 4e. Les curiosités de son ancien boudoir furent suffisantes pour donner aux trois pièces un air coquet. On eut des stores chinois, une tente sur la terrasse. Dans le salon, un tapis de hasard encore tout neuf, avec des poufs de soie rose. Frédéric avait contribué largement à ses acquisitions. Il éprouvait la joie d'un nouveau marié qui possède enfin une maison à lui, une femme à lui. Et se plaisant là beaucoup, il venait y coucher presque tous les soirs. Un matin, comme il sortait de l'antichambre, il aperçut au troisième étage, dans l'escalier, le shako d'un garde national qui montait. Où allait-il donc ? Frédéric attendit. L'homme montait toujours, la tête un peu baissée. Il leva les yeux. C'était le sieur Arnoux. La situation était claire. Ils rougirent en même temps, saisis par le même embarras. Arnoux, le premier, trouva moyen d'en sortir. « Elle va mieux, n'est-il pas vrai ?» Comme si Rosanette étant malade, il se fut présenté pour avoir de ses nouvelles. Frédéric profita de cette ouverture. « Oui, certainement. Sa bonne maladie, du moins, voulant faire entendre qu'on ne l'avait pas reçue. » Puis, ils restèrent face à face, irrésolus l'un et l'autre, et s'observant. C'était à qui des deux ne s'en irait pas. Arnoux, encore une fois, trancha la question. « Ah, bah, je reviendrai plus tard. Où voulez-vous aller ? Je vous accompagne. » Et quand ils furent dans la rue, il causa aussi naturellement que d'habitude. Sans doute, il n'avait point le caractère jaloux. Ou bien il était trop bonhomme pour se fâcher. D'ailleurs, la patrie le préoccupait. Maintenant, il ne quittait plus l'uniforme. Le 29 mars, il avait défendu les bureaux de la presse. Quand on envahit la chambre, il se signala par son courage. Et il fut du banquet offert à la garde nationale d'Amiens. Hussonnet, toujours de service avec lui, profitait plus que personne de sa gourde et de ses cigares. Mais, irrévérencieux par nature, il se plaisait à le contredire, dénigrant le style peu correct des décrets, les conférences du Luxembourg, les Vésuviennes, les Tyroliens, tout jusqu'aux chars de l'agriculture, traînés par des chevaux à la place de bœufs et escortés de jeunes filles laides. Arnoux, au contraire, défendait le pouvoir et rêvait la fusion des partis. Cependant, ses affaires prenaient une tournure mauvaise. Il s'en inquiétait médiocrement. Les relations de Frédéric et de la maréchale ne l'avaient point attristé, car cette découverte l'autorisa, dans sa conscience, à supprimer la pension qu'il refaisait depuis le départ du prince. Il allégua l'embarras des circonstances, gémit beaucoup, et Rosanette fut généreuse. Alors M. Arnoux se considéra comme l'amant de cœur, ce qui le rehaussait dans son estime et le rajeunit. Ne doutant pas que Frédéric ne payât la maréchale, il s'imaginait faire une bonne farce, arriva même à s'en cacher, et lui laissait le champ libre quand ils se rencontraient. Ce partage blessait Frédéric, et les politesses de son rival lui semblaient une gouaillerie trop prolongée. Mais en se fâchant, il se fut ôté toute chance d'un retour vers l'autre, et puis c'était le seul moyen d'en entendre parler. Le marchand de faïence, suivant son usage, ou par malice peut-être, la rappelait volontiers dans sa conversation et lui demandait même pourquoi il ne venait plus la voir. Frédéric, ayant épuisé tous les prétextes, assura qu'il avait été chez Madame Arnoux plusieurs fois, inutilement. Arnoux en demeura convaincu, car souvent il s'extasiait devant elle sur l'absence de leur ami, et toujours elle répondait avoir manqué sa visite, de sorte que ces deux mensonges, au lieu de se couper, se corroboraient. La douceur du jeune homme et la joie de l'avoir pour dupe faisait qu'Arnoux le chérissait davantage. Il poussait la familiarité jusqu'aux dernières bornes, non par dédain, mais par confiance. Un jour, il lui écrivit qu'une affaire urgente l'attirait pour 24 heures en province. Il le priait de monter la garde à sa place. Frédéric n'osa le refuser et se rendit au poste du carrousel. Il eut à subir la société des gardes nationaux, et sauf un épurateur, homme facétieux qui buvait d'une manière exorbitante, tous lui parurent plus bêtes que leurs gibernes. L'entretien capital fut sur le remplacement des buffleteries par le ceinturon. D'autres s'emportaient contre les ateliers nationaux. On disait « Où allons-nous ? » Celui qui avait reçu l'apostrophe répondait en ouvrant les yeux, comme au bord d'un abîme, « Où allons-nous ? » Alors un plus hardi s'écriait « Ça ne peut pas durer, il faut en finir. » Et les mêmes discours se répétant jusqu'au soir, Frédéric s'ennuya mortellement. Sa surprise fut grande quand, à 11 heures, il vit paraître Arnoux, lequel, tout de suite, dit qu'il accourait pour le libérer, son affaire étant finie. Il n'avait pas eu d'affaire. C'était une invention pour passer 24 heures seul avec Rosanette. Mais le brave Arnoux avait trop présumé de lui-même, si bien que dans sa lassitude, un remords l'avait pris. Il venait faire des remerciements à Frédéric et lui offrit à souper. « Mille grâces, je n'ai pas faim, je ne demande que mon lit. Raison de plus pour déjeuner ensemble tantôt. Quelle mollasse vous êtes! On ne rentre pas chez soi maintenant, il est trop tard, ça serait dangereux. » Frédéric, encore une fois, céda. Arnoux, qu'on ne s'attendait pas à voir, fut choyé de ses frères d'armes, principalement de l'épurateur. Tous l'aimaient, et il était si bon garçon qu'il regretta la présence du sonnet. Mais il avait besoin de fermer l'œil une minute, pas davantage. « Mettez-vous près de moi, » dit-il à Frédéric, tout en s'allongeant sur le lit de camp, sans ôter ses buffleteries. Par peur d'une alerte, en dépit du règlement, il garda même son fusil, puis balbutia quelques mots « Ma chérie, mon petit ange », et ne tarda pas à s'endormir. Ceux qui parlaient se turent, et peu à peu il se fit dans le poste un grand silence. Frédéric, tourmenté par les puces, regardait autour de lui. La muraille, peinte en jaune, avait à moitié de sa hauteur une longue planche où les sacs formaient une suite de petites bosses, tandis qu'au-dessous, les fusils couleur de plomb étaient dressés les uns près des autres, et il s'élevait des ronflements produits par les gardes nationaux, dont les ventres se dessinaient d'une manière confuse dans l'ombre. Une bouteille vide et des assiettes couvraient le poêle. 3 chaises de paille entouraient la table où s'étalait un jeu de cartes. Un tambour, au milieu du banc, laissait pendre sa bricole. Le vent chaud arrivant par la porte faisait fumer le quinquet. Arnoux dormait les 2 bras ouverts. Et comme son fusil était posé la crosse en bas un peu obliquement, la gueule du canon lui arrivait sous l'aisselle. Frédéric le remarqua et fut effrayé. « Mais non, j'ai tort, il n'y a rien à craindre, s'il mourait cependant. » Et tout de suite, des tableaux à n'en plus finir se déroulèrent. Il s'aperçut avec elle, la nuit, dans une chaise de poste, puis, au bord d'un fleuve, par un soir d'été, et sous le reflet d'une lampe, chez eux, dans leur maison. Il s'arrêtait même à des calculs de ménage.